Salut à tous, j'espère que tout va bien. Bienvenue, c'est l'heure de Si les 90s m'étaient comptés, c'est le 18e épisode. Ce soir, on va se poser au mois de mai 1994 et essayer de dresser un état des lieux de ce qui se passait dans ce printemps d'il y a un peu plus de 20 ans. Un printemps qui avait une sacrée gueule de bois. On était quelques semaines après le suicide de Kurt Cobain, la crise battait déjà son plein et la jeunesse sous tension pour cause de CIP s'enflammait au sens propre comme au sens figuré. Au milieu de tout ça, heureusement, il y avait du rock et du bon. Vous allez le voir ce soir, je vous ai concocté une playlist 100% mois de mai 1994. Et on va commencer tout de suite à la décortiquer avec un coup double pour lancer l'émission. Ça commence avec les Français de Black Maria et les Traces. Et enchaîné juste derrière en embuscade, les Américains de Mania Pop et Slowly Slowly. Un single extrait de leur très bon album du printemps 1994, Hot Boxing. Si les 90s, épisode 18, c'est parti!
Interrupt my
C'était du bon ça, c'était Mania Pop, un groupe d'Atlanta pas hyper connu chez nous mais qui a eu son petit succès au début des années 90 en Belgique, en Hollande et au Luxembourg. Chez lui c'était un petit peu pareil, malgré des albums produits par des pointures comme Michael Stipe, le chanteur de REM pour le premier, ou Bob Mould pour le deuxième. Mania Pop a été réduit à un succès d'estime, en tout cas un succès pas à la mesure de son talent. Ça n'a pas empêché le groupe de continuer sa carrière en indé, et aux dernières nouvelles, il tourne toujours. Le disque qui vient, lui, fait partie de ceux que j'ai le plus écouté en 1994. Il s'agit du seul et unique album de Pride and Glory, le tout premier groupe de Zakk Wylde. Un excellent album de heavy rock bluesy à la couane, un peu de banjo par-ci, un harmonica par-là. Le père Wylde se l'a joué sudiste à la Liner Skyner et c'était tout simplement excellent. Il n'y a jamais eu de suite à ce premier essai ultra convaincant. En tout cas, voici Pride and Glory et Losing Your Mind. Ça permettra encore de nourrir les regrets.
Going all day. You're just losing your mind.
Vous êtes dans Si les nantismes étaient comptés, l'émission vient tout juste de commencer et c'est l'heure d'envoyer les news d'époque juste après un petit jingle. Et on commence cette page de news dédiée au mois de mai 1994 avec le 1er mai, la mort du pilote de Formule 1 Ayrton Senna suite à une très violente sortie de route sur le Grand Prix de Saint-Marin. Le 4 mai, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent un accord historique, un accord de paix qui accordait plus d'autonomie et plus de territoire à l'autorité palestinienne. Le 6 mai, l'Angleterre n'était officiellement plus une île puisque le tunnel sous la Manche était inauguré après plus de 8 ans de travaux. Le 10 mai, Nelson Mandela était élu président d'Afrique du Sud. Le 12 mai, c'était l'ouverture du Festival de Cannes, c'était le 47e et c'était Clint Eastwood qui était désigné président. Et lui et son jury allaient récompenser quelques jours plus tard Pulp Fiction, dont on parlera en fin d'émission. Le 26 mai, pour terminer, le King of Pop épousait la fille du King tout court, Michael Jackson, épousait donc Lisa Marie Presley. Tout de suite, retour de la musique, on va se refaire une petite doublette, bien funky avec Ashbury Face et What I Want. Et puis juste derrière, les Infectious Grooves et Violent and Funky. What I want is what I get. Yeah, you'll see. Everything is asking for what you see. Every time you see, yes, I see an OG. I never say kill, I just let it be. Sometimes I appreciate it. I see all the things you gotta say. And I hear just the sound of a bitter, a falling tear. For things never ever worked out when I care. No. What is what I get now? And I know that this is nothing of the war fight. So go, the project is all grounded. May I show that the image behind I not know I was born and I die with my children, my faith. And this is why I believe in honesty, telling lies. Cause a man ain't a man when he lies. I want is what I get. I bring it, I take it, I think it. I wanted to be mad, I wanted to use a bad time. Boom, I ain't dead, yeah. I just remember what I want is what I get. I want to get out here. I never been out for more than I was, so don't get me that shit. Now, I don't know. But what I want is what I get, yeah. And I hate when somebody tries to steal a company's game. Now, man, game. No, I never have a good look in your shit. What I want is what I get now. And I please, I got blood in my bones, and in my feet, I got blood in my hands, and in my hands. Cause what I want is what I get.
take the sword, you can ride some dish, you kill a cat, leave a middle. You want fun games?
We got fun games.
What kind of fun games?
Five and fun games.
Yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigotry, a hell of a lot joker. Early to bed and early to rise makes a man healthy. Till the fat lady sings and the big ninja choking on the jokers that love me. You want funky?
We got funky.
What kind of funky?
Wilder than funky. Wilder than funky. Wilder than funky. Wilder than funky. Wilder than funky.
Si vous êtes un fidèle de l'émission, vous le savez, on commence toujours par jeter un coup d'œil à toutes les news musicales d'époque. Aujourd'hui, elle va être un petit peu plus réduite, cette page, parce que j'ai voulu laisser beaucoup plus de place au cinéma en fin d'émission, vous le verrez tout à l'heure. On va quand même jeter un petit coup d'œil sur le top des ventes rock pour ce mois de mai 1994, avec une flopée d'albums qui auront marqué leur temps. Les plus grosses ventes donc avec La Splatch de Breeders, le Dies Irae de Noir Désir, le Super Unknown de Soundgarden, In Utero de Nirvana, l'album Retrouver les Tops boosté par la mort de Kurt Cobain, cartonné également le premier album de Rage Against the Machine, Trouble Gum de Therapy, Far Beyond Driven de Pantera, l'album VS de Pearl Jam, Grooves Family Psycho d'Infectious Grooves et également grosse vente pour le Jar of Flies, le mini-album acoustique de Alice in Chains. On va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour évoquer ce joli mois de mai 94 avec les couvertures de la presse et les sorties. Et comme d'habitude, le must-have, le disque indispensable. Tout de suite là, c'est les Super Suckers, un groupe de Seattle, mais pas du tout grunge, vous allez voir. C'est bien rock'n'roll et gold top.
Okay.
À chaque numéro, on évoque la presse musicale de l'époque, et celui-là n'échappera pas à la règle. Direction les archives avec, à tout seigneur, tout honneur, Rage Magazine, c'était le numéro 6 qui était en kiosque, et Henry Rollins en couverture, sous titre Le Samouraï Hardcore. On y parle aussi de Pantera, des Beastie Boys, de Infectious Groove et de Urban Dance Squad. Chez Rock Sound, c'était Trent Reznor et donc Nine Inch Nails qui étaient à la une. Le mensuel de Clermont-Ferrand évoquait aussi la mémoire de Kurt Cobain, Swell, Sonic Youth et The Otter. Du côté de chez Rock and Folk, numéro 322 en kiosque et une couverture bien dans la tradition du titre avec les Rolling Stones, dont le retour réjouissait visiblement la rédaction. Du côté de chez Best, c'était Bachung qui héritait de la couverture et à l'intérieur, des articles sur Malcolm McLaren, No One Is Innocent, mais aussi Sonic Youth et Urban Dance Squad. Du côté des sorties d'albums de ce mois de mai 1994, on était gâtés avec Frank Black et Teenager of the Year, Biohazard et State of the World Address. Il y avait également un self-titled, comme on dit, de Tortoise. Godflesh sortait son album Selfless. Alice Donut, un live au CBGB qui s'appelait Dry Humping the Cash Cow. Du côté du rock garage, les Humpers, très très bon groupe à vous conseiller avec Journey to the Center of Your Wallet. Win nous gratifiait Chocolate and Cheese. Du côté du punk rock, les Strung Out, les Californiens, sortaient Another Day in Paradise. Pour les métalleux, il y avait un très bon album de Screw, du métal industriel donc, qui s'appelait Dusted. Pride and Glory, on l'a écouté tout à l'heure en début d'émission avec leur self-title également. Et pour terminer, les New Yorkais de Sonic Youth qui sortaient leur album expérimental Jet Set Trash and No Star, qui était plutôt pas mal, comme pas mal de disques d'ailleurs de Sonic Youth. Et pour terminer, au milieu de toutes ces ventes, le Blue Album de Weezer, disque indispensable de ce mois de mai 1994. Il est sorti très exactement le 10 mai. C'est un disque qui est évidemment connu pour ses énormes tubes Buddy Holly et Undone the Sweater Song, mais c'est un disque qui fait figure également de crime parfait, puisque pas un seul titre n'était ajouté, ce qui sera plutôt rare chez Weezer par la suite, qui nous habitue à des disques pas toujours à la hauteur de cette entrée en matière. Composé en à peine plus d'un an, entre 92 et 1993, mois de... Composé en à peine un an, entre 1992, année de création de Weezer, et juillet 93, mois de signature chez Geffen, ce premier album était produit par Rick Ocasek, producteur qui était assez connu pour ses disques de power pop. Il a également joué dans The Cars. Le Blue Album, c'est une leçon magistrale de power pop, de la power pop telle que l'on aime, celle qui regorge de grosses guitares, de refrains bubblegum, celle qui véhicule aussi des émotions, rage, mélancolie, timidité, fragilité, des émotions qui, 20 ans après, continuent d'émoustiller ceux qui sont restés des adolescents attardés, et j'en fais partie, vous vous en doutez bien. Au final, c'est plus de 3 millions de copies qui se sont écoulées pour ce fameux Blue Album, et ça, c'était rien qu'aux États-Unis, ça en a bien cartonné aussi dans le reste du monde, et c'est aussi le disque de Weezer qui a eu le plus de succès à ce jour. Pour terminer sur Weezer et le Blue Album, une petite anecdote dont se souviennent peut-être les cracks de l'informatique. Le clip de Buddy Holly, qui faisait revivre génialement la série Happy Days, était inclus en bonus sur le CD-ROM de Windows 95. Tout ça pour démontrer l'efficacité multimédia de la bête. Pas con comme idée pour booster un disque. Voici donc tout de suite Weezer et Undone the Sweater Song. C'est notre disque indispensable du mois de mai 94. We'll be right back. Tout à l'heure, hein, ce mois de mai 1994, Henry Rollins faisait la couverture de Rage Magazine et la raison était évidente, le bonhomme venait de sortir un nouvel album, le premier avec la nouvelle mouture de son Rollins Band intitulé Wait. C'est un album ultra personnel et ultra convaincant dont était extrait Disconnect qu'on vient de s'écouter. Le mois de mai, c'est aussi traditionnellement le mois du Festival de Cannes et quand j'ai préparé cette émission, vous vous en doutez, j'ai jeté un coup d'œil sur ce qui s'est passé il y a 20 ans là-bas. Et bonne pioche, l'événement majeur de ce 47e Festival de Cannes, c'était l'attribution de la Palme d'Or à Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Une remise de trophée bien rock'n'roll, puisque sifflé par une partie du public, le réalisateur américain avait répondu par un doigt d'honneur. Rien que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Pulp Fiction, vous connaissez forcément, ça a été un énorme succès au box-office, et si à l'époque vous ne l'aviez pas vu en salle, vous l'avez depuis forcément loué ou regardé à la télé. C'est même devenu le film culte des années 90. Du coup, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Par contre, si vous aimez les anecdotes et autres clins d'œil, vous devrez y rester. On en parle juste après Frank Black. We'll be right back.
Let me sing about one thing that's clear. That nobody owns the pleasure of tones that belongs to the guy with no real.
Vous êtes dans Si les 90s m'étaient comptés, et si vous arrivez maintenant, vous avez quasiment tout loupé. Dommage, car on engage la dernière ligne droite de l'émission avec un petit dossier consacré aux anecdotes de Pulp Fiction, le film à l'honneur en ce mois de mai 1994, le film qui nous intéresse aujourd'hui puisque Palme d'Or au Festival de Cannes cette année-là. Et on commence cette série d'anecdotes avec le titre du film lui-même, Pulp Fiction, un titre qui fait référence au Pulp Magazine, des magazines bon marché, qui contenaient de courtes nouvelles et qui ont inondé le marché de la presse américaine jusqu'en 1950. Pulp Fiction, que les traducteurs québécois avaient d'ailleurs rebaptisé Fiction Pulpeuse, ce qui était un peu hors sujet, il faut bien l'avouer. Dans le film, Vincent Vega, qui est joué par Travolta, roule dans une superbe décapotable Chevy Malibu de 1964. C'est une voiture tout au rouge d'ailleurs. Une voiture qui était la voiture personnelle de Quentin Tarantino. Première anecdote. Et deuxième anecdote, cette voiture lui a été dérobée sur le tournage. Mais bonne nouvelle, elle a été retrouvée l'an dernier. Lors de la première rencontre pour parler de Pulp Fiction, John Travolta s'était rendu chez Quentin Tarantino. Et drôle de coïncidence, là aussi, Travolta connaissait les lieux puisqu'il avait habité là au tout début de sa carrière.
Tu connais bien la Bible ?
Oui, oui.
Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux et semés d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu.
Ce serment de Jules, vous le connaissez certainement, c'est une des scènes cultes de Pulp Fiction. Eh bien, sachez, chers auditeurs, que contrairement à ce que croient beaucoup d'entre vous, ce texte n'est pas du tout sacré. C'est une pure adaptation qui était signée Jules et qui se l'a joué façon prédicateur, il faut bien l'avouer, dans cette scène. Pour simuler les scènes de trip d'héroïne, Tarantino avait trouvé pour Pulp Fiction un moyen plutôt sympathique. Il prenait des bains et buvait de la tequila, et ça juste avant de jouer ses scènes, ce qui lui donne cet air complètement halluciné. Toujours dans le souci de donner du réalisme, Tarantino a monté la scène de l'overdose de Mia à l'envers. Je m'explique. Quand Vincent enfonce rageusement sa seringue en plein dans le cœur de Mia pour tenter de la réanimer avec un shoot d'adrénaline, en réalité, il la retire. Et c'est ce qui donne monter à l'envers ce mouvement, il faut l'avouer, très très direct.
Oh le con, Vincent, mais t'es malade,
merde, quelle chérie. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin.
Mais pourquoi t'as fait ça, putain?
Mais je sais pas, c'est un accident.
Alors je sais pas si vous vous souvenez aussi dans Pulp Fiction, il y a un personnage qu'on voit assez récurrent dans le film, c'est celui du dealer. Il est joué par Eric Stoltz. Eric Stoltz qui avait été casté quelques années plus tôt pour interpréter Marty McFly dans Retour vers le futur. Il avait même tourné quelques scènes, mais finalement il avait été remplacé par Michael J. Fox. Toujours au rang de ces personnages qu'on voit faire des apparitions furtives, celui de Steve Buscemi qui jouait Mr. Pink dans Reservoir Dog et qui était le seul survivant du film à la fin de Reservoir Dog, ben il fait en fait un petit caméo dans Pulp Fiction, puisqu'il joue un rôle très furtif de serveur qui vient prendre la commande de Vincent et Mia. Autre anecdote plutôt croustillante, au niveau du casting, c'était Sylvester Stallone qui avait été pressenté un temps pour jouer le rôle de Butch, rôle qui avait été finalement filé à Bruce Willis. Daniel Day-Lewis devait jouer lui le rôle de Vincent, et Halle Berry, celui de Mia. Et pour terminer ce petit dossier anecdote Pulp Fiction, sachez que le mot fuck est utilisé très précisément 265 fois dans Pulp Fiction.
Come on.
Voilà un titre qui plaira certainement à mon pote Sam, qui a la chance d'être en ce moment aux States, et plus exactement dans la région de Seattle. Je le salue d'ailleurs. Sam qui a tout récemment interviewé Screw dans l'excellent New Noise Magazine. Le titre qu'on s'est écouté, c'était Jesus Screw Superstar, un titre extrait de leur album du mois de mai 1994, Dusted. Voilà, on arrive au terme de ce 18e épisode qui était consacré au mois de mai 1994. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, j'espère vous retrouver fidèle à l'émission dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et comme disait mon maître Bernard Lenoir, caresse et bise à l'œil. Je vous laisse avec Sonic Youth et Bull in the Heather.
Betting on the board.